À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
On est à deux, c'est mieux, en direct de nos studios de la belle visite aujourd'hui. José Lito,
salut. Ben, José Lito. Merci, Luc, de l'invitation. Et je trouve ça extraordinaire parce que moi, j'ai commencé dans une radio locale et qui est à Matane, à CHRM Matane. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une vraie radio locale pour savoir ce qui se passe chez nous. Puis à chaque fois que je vois qu'il y a encore une radio qui a résisté à ses acquisitions par les plus gros, ben je trouve ça très louable. Et tu nous disais que ça fait 75 ans que cette station de radio existe et elle a encore pignon sur rue. Ben, je suis très admiratif de ça, voilà.
José Lito, un nouveau roman.
Oui.
Suite d'un
roman. Je dirais même que c'est un premier roman.
OK.
Parce que Dans mes yeux à moi, pour moi, c'est un récit et Sublesse, pour moi, c'est un roman.
Est-ce que donc tu l'as abordé différemment, l'écrivain? Est-ce que déjà tu t'es dit, OK, celui-là, je l'écris comme un roman et pas comme un récit, ou c'est venu tout seul?
Bien, c'est-à-dire que le premier, naturellement, c'est un récit qui est influent dans mes yeux à moi, qui a inspiré la série Olivier. C'est un livre que j'ai... C'est vraiment un récit dans le sens où, oui, il y avait des bouts romancés, mais j'étais plein d'histoires d'autres enfants, y compris la mienne. Mais quand j'ai abordé l'autre, le dernier, j'ai pas marqué roman dessus, mais ce communiqué de presse, c'est écrit roman. Je l'ai abordé comme une histoire à raconter, avec du suspense et des intrigues et tout ça. Donc, je l'ai abordé comme un roman, mais naturellement, c'est inspiré de faits réels. Bien réels, d'ailleurs.
C'est la suite, dans mes yeux à moi.
Mais une suite particulière.
Plusieurs années plus tard. Et d'ailleurs, tu voulais que les deux livres aient leur vie autonome, que les gens qui n'ont pas lu, dans mes yeux à moi, puissent lire ce livre-là sans problème.
Oui, parce que moi, je trouvais, en tout cas pour moi, dans l'exercice d'écrire un autre livre, si je le partais, ça finissait à l'âge de 18 ans, puis ça en allait pour la grande ville, Olivier. Et à un moment donné, je me suis dit, je le prends à 18 ans, puis je le mets, je vais avoir l'impression de faire une suite pour faire une suite. Donc, j'ai attendu longtemps. Et c'est au mois d'avril l'an dernier, au moment où j'avais mon histoire était très avancée, j'ai dit, ben non, c'est une évidence que c'est Olivier Dubreuil, là, c'est une évidence. J'avais tous les paramètres qu'on avait dans l'autre histoire. Et puis, c'était tellement collé sur moi que j'ai dit, c'est ça qu'on va faire. Donc, on le prend 32 ans plus tard, il y a 50 ans, il est au sommet de son art, au sommet de sa popularité. Il n'est pas totalement heureux dans ce qu'il fait. Il se rend compte que cette gloire-là qu'il a eue, qu'il connaît d'ailleurs à ce moment-là, il se dit, est-ce que ça a réglé tous mes maux d'enfance? C'est ça, les allusions au passé d'Olivier. Il se rend compte que non, ça comble rien. Et ça permet un regard peut-être plus, j'allais dire, plus vigilant, rempli de bienveillance des autres. Mais ça n'enlève pas le regard sévère qu'il a eu parfois dans sa vie des gens qui sont occupés de lui.
As-tu fait ça, toi, tenter de faire de la télé pour combler des blessures d'enfance?
Bien sûr, c'est sûr. Mais bien sûr, on fait tous ça. Il faut tous avoir quelque part une forme de névrose ou une forme de quête.
Tu as besoin d'amour, hein, quelque part, ouais, ce métier-là aussi?
Moi, pour être encore plus précis dans ma réponse à ta question qui est vraiment bonne, je dirais, parce qu'inévitablement, tout le monde, je ne sais pas combien d'entrevues je suis rendu pour ce livre-là, ils veulent tous démêler le vrai du faux. C'est normal, l'exercice.
Ah ouais,
c'est normal. D'abord, je ne démêlerai jamais le vrai du faux parce que j'ai toujours dit une phrase, je vais répondre à ta question, ne t'inquiète pas, mais j'ai toujours dit une chose importante. D'abord, c'est ma vérité à moi. Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où je raconte quelque chose, c'est ma vérité. C'est Daniel Pénacle qui disait « Arrêtez de chercher le vrai du faux. » À partir du moment où je l'écris, c'est ma vérité à moi, c'est mon point de vue à moi. Pour revenir à ce que tu disais, moi, j'ai juste voulu qu'une personne me regarde, c'était ma mère adoptive. Je voulais, en allant dans la télévision, lui dire, mon Dieu, je pense pas avoir dit ça, là, mais j'avais l'impression que je voulais juste qu'elle me regarde et qu'elle me trouve bon. J'ai même acheté un 55 pouces un jour pour qu'elle me voit encore plus gros, okay. Mais son 13 pouces sur le comptoir suffisait. Puis je pense qu'elle me l'a jamais dit vraiment, qu'elle me trouvait vraiment bon parce qu'elle avait tellement peur que je me prenne pour un autre. Donc, ça a nourri ma quête. C'était vraiment par rapport à elle. Tu vas voir que t'es venu tu vois, j'ai jamais fait ce lien-là. Quand on est un enfant qui a été abandonné et adopté dans les familles d'accueil comme j'ai été, quand on est choisi à partir d'une photo, hein, on est choisi à partir d'une photo, il y a 25 photos, puis on dit, il faut prendre ce petit gars-là, il a l'air cute, là, ou il a l'air gentil, bien, il faut être adoptable. Donc, toute notre vie, on se sent redevable. Donc, moi, j'ai l'impression que j'ai voulu toujours être quelqu'un de très bien pour ma mère, adoptive, qui est malheureusement décédée en 2013, puis j'ai toujours voulu être à la hauteur. Donc, je pense que je l'ai fait beaucoup pour elle. Donc, c'était son regard à elle qui m'importait beaucoup plus que le regard des autres. Moi, les autres qui me disaient que j'étais bon, là, c'était une affaire, mais moi, c'était ma mère. Il fallait qu'elle me dise que j'étais bon.
Dans mes yeux à moi, tu m'as dit que tu avais eu peur quand tu l'avais écrit, de raconter cette histoire-là. Mm-hmm. Et là, c'est différent. Cette fois-ci.
Mais bien sûr, j'ai eu peur parce que, d'abord, j'ai eu peur pour moi, parce que pas parce que j'ai pu avoir des menaces.
Non, non, je comprends.
Peur parce que j'allais plonger dans des souvenirs extrêmement douloureux, je les rendais publics. je savais très bien, parce que quand le livre est sorti, j'ai eu 5 propositions de faire une série, donc je savais bien qu'il y avait un engouement pour cette affaire-là. Et j'avais peur de dire, mon Dieu, j'en ai dévoilé beaucoup sur ça. Quand j'ai écrit le deuxième, j'en dévoile beaucoup sur mes états d'âme, sur ce métier, sur la vie en général, sur ce que je pense, puis la quête du père. Mon père est enterré aussi en New York, donc ça va. Mais c'était pas pareil quand je l'ai fait. Je me suis pas senti... À partir du moment où j'avais donné la parole à Olivier tout jeune, je me sentais... En tout cas, j'étais légitimé de le faire pour l'adulte.
Est-ce que comme il y a eu une série télé, en écrivant ce livre-ci, Olivier, tu le voyais vraiment? Parce que là, il y avait image. On l'a vu, l'acteur qui a joué Olivier, Thomas. Est-ce que tu le voyais en l'écrivant?
Ah oui, c'était plus clair. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit de la même manière. Je l'ai écrit plus. Puis c'est drôle parce que là, je supervise. Puis je coproduis une série avec mon ami André Dupuis qui s'appelle Le Chaos pour Club Illico. Puis je suis beaucoup dans les textes actuellement parce que je suis crépéditeur là-dessus avec André. Puis je le vois comment on structure nos affaires. Puis j'ai l'impression que je l'ai écrit beaucoup comme un scénario. Ce livre-là, je l'ai écrit différemment. Puis entre l'écriture du premier livre puis le deuxième, il y a 9 ans entre les deux. Et il y a une grande différence dans l'écriture. J'ai l'impression que je l'ai assumé que je devais écrire dans la vie. J'ai pas dit que j'étais bon. Je n'irai pas jusque-là. Mais que je pouvais aussi écrire.
Mais c'était ton rêve premier, ça, écrire. Non? Avant de faire de la télé, non?
Non, c'est la radio.
OK.
C'est le plus beau médium qui existe au monde, c'est la radio. C'est le plus beau médium qui existe. Tu peux pas savoir comment... J'étais heureux en venant ici en pensant qu'on partagerait une heure ensemble. Je me disais, wow, dans une radio locale qui me rappelle étrangement la mienne à CHRM Matane, qui me rappelle mes débuts. Ça, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Après ça, il y a la télé... Mais l'écriture était vraiment... Jamais j'avais... J'écrivais des articles dans les magazines. Tu te souviens, à l'époque, j'étais directeur au Midi.
Oui.
Mais d'écrire un livre, je suis rendu à mon 4e, j'en prépare un 5e, là. Je me disais, ben voyons donc. Et à partir de ce livre-là, 3 mois tout au plus, là j'ai dit, OK, ça, je vais en écrire en 2-3 ans. J'aime trop ça. Là, j'ai eu un goût extraordinaire pour l'écriture.
José Lito, on parle de ton roman, ton premier roman, comme tu l'as dit. La suite, c'était pas clair au départ que ça allait être une suite. C'était l'histoire qui est arrivée.
Bien sûr, l'histoire.
Au départ. Mais c'était pas Olivier.
Non, c'était pas Olivier au départ, mais c'était un homme qui ressemblait étrangement à Olivier. Puis j'avais l'impression que j'y allais pas en me disant, je vais faire un bout avec. Et à un moment donné, c'était devenu une évidence. Puis je suis content de l'avoir attaché à cette histoire-là parce que Olivier est devenu, je l'ai dit partout, je le redis encore, mais c'est devenu mon alter ego. Puis je le connais tellement bien que c'est beaucoup plus facile pour moi à écrire. Beaucoup plus facile. D'abord, c'est facile de lui donner des mots dans sa bouche. Tu comprends-tu? J'ai pas moi à les dire, mais je les écris pour lui, puis mais en même temps, je les reconnais pas mal. Tu sais, en même temps, c'est formidable. Ça fait penser à un ami imaginaire quand t'es tout petit.
Ouais.
Imaginaire. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est mon Olivier, c'est ça. Puis je l'aime, Olivier. Je l'aime. Je le trouve courageux, Olivier. Je le trouve très courageux. Je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Si c'était de moi, je serais pas capable de me regarder de la même manière. Mais plus je me rends compte que je sais pas, ça me permet de regarder différemment cet homme-là.
Est-ce que c'est plus facile à écrire que si c'était biographique, par exemple? Parce que tu es derrière un personnage?
Ben bien sûr, sauf qu'en même temps, ma blonde qui me connaît par cœur après 26 ans, elle me dit tout le temps, mon Dieu Seigneur, c'est toi. Puis tout le monde le sait, qui sont intimes autour de moi, ils savent très bien que c'est moi. Mais c'est intéressant aussi d'avoir une forme d'héros. Okay? Ça ne peut pas être nous, tu sais, on peut pas se croire des héros puis penser qu'on a été héroïque dans notre vie. Fait que c'est le fun quand tu le donnes à quelqu'un d'autre. Ça. Et ça rappelle ma mère qui me disait, prends-toi pas pour un autre. Fait que là, je me prends pour un autre en le faisant faire. Par Olivier. Non, mais je me rends compte que c'est un dédoublement de personnalité, mais qui m'avantage énormément, moi, quand je l'écris. Ça me donne beaucoup de liberté d'écriture, certainement.
Olivier veut rattacher des bouts de sa vie dans ce livre-là. Avec son père.
Je
le sais, ça m'énerve. Ça m'énerve.
Non, mais ça t'énerve au moins. Mais je te rassure, tu n'es pas le seul à qui ça énerve. Écoute, les gens, je ne dis pas ça prétentieusement, les gens tellement peur de m'interviewer en disant « Tu vois tout. » Mais
oui.
Je l'ai fait 5000 et plus, c'est sûr. mais je te vois venir très bien. Donc, vas-y ta question. Je peux même la poser à ta place.
Ah, ça sera peut-être pas ça. On va voir.
Oui, est-ce que ça change vite ta question.
Est-ce que tous les enfants adoptés veulent rattacher des bouts ou c'est pas à tout le monde que ça arrive?
Ah, tu vois, tu m'as dévié là. Non, mais, moi, je pense que c'est pas nécessaire à tout le monde. C'est drôle, j'ai fait une série documentaire à la radio Radio-Canada qui s'appelait, je me souviens plus quoi, mais c'était très intéressant sur justement l'adoption et la volonté de chacun de trouver ses origines. Et on s'est rendu compte dans les pourcentages qu'il y avait un tiers, pour répondre à la question clairement, un tiers qui voulait, un tiers qui hésitait, puis un tiers qui voulait pas du tout le faire.
Okay.
Moi, je pense que mes enfants se retrouvent là, dans le tiers qu'ils ne veulent pas du tout. Moi, c'était pas important de retrouver ma mère biologique jusqu'à temps qu'elle se présente à moi dans une drôle de circonstance. Et après ça, moi, j'ai voulu comprendre qui était mon père. J'arrêtais pas de poser des questions sur mon père biologique. J'étais obsédé par mon père biologique, beaucoup plus par ma mère. J'en ai pas eu tellement de mères dans ma vie. Mais je pense que c'est pas nécessaire de tout rattacher. Mais dans mon cas à moi, avant de mourir, j'annonce pas ma mort, mais avant de mourir, j'ai besoin de rattacher des bouts pour me réconcilier avec cette enfance-là.
D'où l'histoire de ce livre-là où Olivier est confronté à un verdict de 3 mois et où il veut faire ça, faire la paix avec son passé puis essayer de voir ce qu'il peut faire avec ça.
Ben, c'est-à-dire, lui, ce qu'il dit, c'est « Maintenant que je connais ma mère biologique, c'était ça l'histoire numéro un. » Il découvre que sa mère, c'est sa tante, il ne comprend plus ce qui se passe. Et à un moment donné, il se dit « Ben, si je suis pour mourir, ou s'il me reste 3 mois tout au plus, selon l'avis des médecins pour l'instant, ben, je ne vais pas dévoiler de punch. » Il va dire donc faut que je m'empresse de trouver mon père, mais il découvre par sa mère biologique, qui est atteinte d'Alzheimer, que son père biologique n'est pas celui dont elle lui parlait. Donc, encore des mensonges. La vie est remplie de mensonges. Puis on dirait qu'il y a une génération de personnes qui mentaient pour éviter d'approcher la vérité ou de faire mal aux autres. Et c'est ça qui se passe avec Olivier. Elle est atteinte d'Alzheimer, puis elle lui raconte une histoire. Elle ne sait même pas que c'est son fils. Elle lui raconte une histoire d'amour qui date de 50 ans. Il se rend compte que l'histoire qu'on lui raconte, c'est son histoire à lui. Et là, il part à la recherche et il se rend compte que son père est mort à New York. Mais lui, il dit « Je veux découvrir tout de cet homme-là ». Voilà ce qui va se passer.
Comme intervieweur, on est souvent en quête de vérité ou en tout cas en quête de l'humain qui est en face de nous. Quand on a grandi dans une espèce de mensonge, est-ce que ça pousse encore plus cette quête-là, tu as l'impression?
Ça, c'est une bonne question. Je dirais quand on est un intervieweur, ce qu'on a surtout besoin, c'est moi, c'est pas la vérité que je cherche, c'est l'authenticité.
Ouais.
Parce que des fois, c'est pas toujours bon.
C'est proche.
C'est proche, mais des fois, il y a des choses que tu ne dois pas dire parce que ça peut blesser des gens.
Oui.
Mais moi, je recherche beaucoup l'authenticité du moment, parce que c'est un moment, une entrevue. Donc, effectivement, je pense que mon obsession de cette authenticité-là, ça vient certainement des nombreux mensonges tout au long de mon parcours de vie. Ça, c'est clair. On m'a menti sur mes familles d'accueil qui étaient là. On m'a menti sur des noms. On a menti beaucoup. Je peux le comprendre, mais en même temps, je sais ce que ça veut dire pour moi.
As-tu fait la paix avec ça?
Je commence à faire la paix parce que les gens qui m'ont fait du mal, il y en a un qui est encore vivant, mais il y a des gens qui sont morts depuis ce temps-là. Puis moi, je ne suis pas beaucoup dans la revanche. Je ne suis jamais dans la revanche. Je suis plus dans la compréhension des choses. Ça s'appelle la résolution dans un domaine du deuil. Là.
Ouais.
On appelle ça la résolution. Je suis plus dans la résolution. Comment je fais pour m'enlever cette espèce de choc post-traumatique que j'ai de cette enfance parfois difficile? Puis je trouve que je suis devenu peut-être Là, je n'ai pas dit un bon intervieweur, mais je suis venu un intervieweur beaucoup à cause de cette hyper-vigilance et cette quête-là que j'ai. Je pense que ma curiosité de savoir vient peut-être de cette enfance-là. Et tant mieux, donc, ça n'a pas toujours été facile. Moi, je pense qu'il faut transformer ça. À un moment donné, il faut en revenir de l'enfance.
Comme on retrouve Olivier, comme on le veut à la télé, est-ce qu'il y avait une attente qui a ajouté une pression pour toi?
Bien sûr, une attente. J'avais une pression. C'est peut-être pour ça que j'ai attendu en dernier avant de... Tiens, je ne m'étais même pas rendu compte de ça. C'est peut-être pour ça que je me suis rendu à 3-4 mois de la fin de l'écriture pour accepter que c'était Olivier, pour m'enlever de la pression. Je pense que c'est ça. Je n'avais pas fait le lien. J'ai attendu au mois d'avril, mai, pour dire « OK, ça va être lui ». Puis là, j'étais collé dessus, donc c'était plus pareil. Il y a une pression. Mais en même temps, moi, je vis très bien avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a des attentes, mais jusqu'à maintenant, les commentaires sont très bons. J'en suis très, très heureux. Puis je pense que je me suis enlevé de la pression en faisant un bond de 32 ans, en faisant en sorte que je peux aller plus loin dans la recherche ou dans sa quête à lui.
Ça ressemblait à quoi les témoignages, ça, dans Mes yeux à moi, ou la série tout après?
Oh mon Dieu, c'était deux affaires complètement différentes. D'abord, il y a eu le Dans Mes yeux à moi, puis Dans Mes yeux à moi, c'est c'est incroyable votre enfance. Puis là, j'arrêtais pas de dire oui, mais c'est moi mélangé avec d'autres enfants.
Ouais.
Oh, mais là, j'arrêtais de dire ça, je l'ai assumé. Bon, ça, c'était correct. La série, ça, c'était plus dur pour moi. J'ai dû, pendant un certain temps, je me souviens quand ça a fini en novembre là, 2017. Je suis parti pendant un mois et demi, puis je me suis... je pense que mon silence d'un an est... t'es bon parce que tu me fais avouer des choses. Mon silence d'un an a été intimement lié à cette série-là.
OK.
Parce que c'était très dur à revoir. Il y a des scènes qui étaient très dures à revoir. Les scènes de violence, pour moi, étaient très dures à revoir. Puis d'imaginer que c'était un petit enfant qui avait vécu ça. C'est drôle, le temps est aussi longtemps que t'écris, puis tu ne vois pas la grandeur que t'avais quand t'es arrivé. Mais je me souviens, moi, des scènes de violence, j'ai coproduit la série, j'étais là. J'ai dû sortir, là. J'ai fait « OK, j'étais haut de même. OK, OK. » Là, c'est un choc pour moi. Tu comprends ce que je veux dire?
Ah ouais.
Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je me suis rendu compte. Donc, ça a mis un an avant que je me rétablisse facilement de ça. Je n'ai pas fait de dépression, mais j'avais beaucoup de peine pour Olivier. J'avais beaucoup de peine pour lui. Donc, forcément pour moi.
Tu es aussi un parent adoptif.
Oui.
Est-ce qu'on veut à tout prix éviter ce qu'on a vécu, nous? Et on s'arrange pour envelopper cette famille-là?
Ben, c'est sûr que d'abord, j'ai jamais pensé adopter. C'est étrange, hein?
OK.
Jamais, jamais, jamais. C'est après qu'on ait perdu Véronique et moi, que... Parce que Véronique a décidé sur le tard. Elle a dit, j'ai un goût d'avoir un enfant alors qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant.
Okay.
On est bon, puis on l'a perdu, puis en cours de grossesse. Puis c'est elle qui a dit, pourquoi on ne va pas vers l'adoption? Parce que tu as tellement le goût d'en avoir. J'ai jamais pensé à ça. Effectivement, ça fait un père super protecteur. Ça, c'est clair. Et surtout, casser la chaîne. De ne pas voir et de ne pas répéter ce qu'on a vu. Ça, c'est clair. C'est une préoccupation de tous les jours. Mais il n'y a pas de danger dans ma nature, parce que j'ai cassé ça assez vite, moi. Mais je suis devenu très protecteur. J'ai un rapport extrêmement fusionnel. Parfois trop avec mes enfants, peut-être un peu trop. Peut-être. Mais d'autres diraient que c'est pas formidable, mais on est très fusionnel, oui.
Ça a été écrit dans le confinement, ce livre-là, non?
C'est ça qui est particulier. C'est-à-dire, la dernière partie était écrite dans le confinement. Puis quand le confinement, parce qu'on parlait durant la pause et la musique de Daniel Bélanger, on parlait de ce qui nous arrive comme société et comme peuple à travers le monde. C'est très dur. Moi, j'ai beaucoup, il faut le dire, j'ai une pensée pour les gens seuls actuellement, les personnes âgées, les enfants qui se retrouvent devant leur abuseur, 24 heures sur 24, s'il vous plaît, les femmes qui se retrouvent en traitement de chimio et qui doivent garder leurs enfants le jour parce qu'il y a des écoles qui sont fermées ou des classes qui sont fermées. C'est pas drôle ce qui nous arrive. Notre responsabilité comme adulte, je pense, Luc, c'est de voir comment on peut traverser ça. C'est juste ça. Tu sais, dans le livre « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck, il disait, entre autres, une phrase très belle, il disait « La vie est difficile, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? » Donc ça, c'est une épreuve qui s'appelle collective. Et aujourd'hui, on oublie, et on en parle de plus en plus, je suis très content que le gouvernement Legault en parle, de cette détresse humaine-là. Il y a une grande détresse humaine actuellement. Moi, j'ai tous mes amis autour de moi, sont tous d'onde. Je veux dire, connus, pas connus, il y a quelque chose d'anxiogène dans cette deuxième phase-là. La première phase, on dirait qu'on l'apprenait, elle était tellement saisissante, je sais pas ce que t'en penses,
mais
elle était tellement saisissante qu'on se dit, bon, ça va arrêter, puis l'été est arrivé, avec un été le plus remarquable des 10 dernières années. Fait qu'on l'a comme oublié, tu sais. Mais quand est arrivé le confinement 2, là, on n'est pas en confinement, mais on a quand même une grande partie.
Ouais. Puis dans les mois déprimants de l'automne.
Dans les pires mois. Là, ce qui nous encourage, c'est de voir qu'il y a des vaccins qui sont vraiment efficaces à 95%, ce qui est très rare. Là, il y a le grand débat. Est-ce que je vais en prendre un ou pas parce qu'il n'y a pas eu autant d'études qu'on le souhaite? Mais il y a une chose qui est certaine. On voit une espèce de lueur au bout du tunnel. Et moi, quand j'ai écrit le premier livre, quand j'ai écrit la dernière partie du livre, je suis rendu à la moitié, moi, j'allais, ça n'allait pas bien. Je me disais, je finissais les shows à Radio-Canada, José Tour, au cœur du monde. J'étais brûlé. Et s'il n'y avait pas eu la COVID, je pense que je frappais un mur. Et ça a fait en sorte que j'ai vu le pied sur l'accélérateur. T'sais. J'ai comme dit, Radio-Canada me dit, ben, ce ne sera pas cet été, ça va être à l'automne, prends ton temps pour les montages. Ça avait une pression. On devait tourner KO cet automne. Fait qu'on dit, garde, prends le temps, on va le tourner plus tard. Ça permettait de bien finir nos textes, la série. Puis, je me suis dit, ben, je vais filer mon livre avant le temps. Et ça me déposait le matin quand j'allais écrire. Il y avait 4 matins par semaine qui étaient non négociables. J'allais écrire sans être dérangé. Et ça m'a beaucoup apaisé d'écrire. C'est drôle dans ce temps de COVID-là. Ah, ben ouais. Et ma réflexion, l'espèce de proximité avec la perte de quelqu'un, avec la maladie qui était prête, m'a emmené à écrire différemment, je crois.
Mais Olivier est face à un verdict. Et on l'a un peu été dans le confinement, cette espèce d'inconnu-là.
Absolument.
Où on a tous réfléchi à la suite des choses, à comment on voudrait le demain pour nous, pour nos proches, pour notre famille. Est-ce que tu as l'impression qu'il arrive à un bon moment, même si c'est pas voulu?
Bien, je veux dire, je me suis rendu compte de ça parce que les gens, c'est ce qu'ils me disent quand ils m'écrivent, parce que par le Facebook, ils m'écrivent beaucoup parce qu'ils sont en train de le lire ou qu'ils ont terminé de le lire. Puis c'est ça qu'on me dit, mon Dieu, qu'il nous fait du bien, parce que c'est une réflexion que je voulais. Moi, je voulais, puis c'est drôle, je la voulais bien avant la pandémie. Moi, je me disais, je voudrais écrire un livre. Puis à la fin du livre, on se dit, moi, je suis confronté. Qu'est-ce que j'attends pour être heureux? Qu'est-ce que j'attends pour vivre? Est-ce qu'il me faut toujours une espèce d'échéancier? Combien de gens disent actuellement, avoir su, j'aurais plus nourri mes rapports amoureux? On entend ça souvent.
Oui.
Avoir su, j'aurais quitté mon chum avant parce que je me suis rendu compte en tant que COVID, c'était pas l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Avoir su, je me suis occupé plus de mes enfants. On entend ça beaucoup actuellement. Mm-hmm. Mais parce qu'il y a la COVID qui nous oblige à avoir ça. Est-ce que maintenant, on peut oublier d'avoir un événement malheureux? pour avoir le même genre de réflexion. Les bouddhistes disent toujours, vivons comme c'était la dernière journée. Le soir, quand on se couche, est-ce qu'on a fait le maximum qu'on pouvait? Est-ce qu'on a été une bonne personne? Est-ce qu'on a fait attention aux autres? Je pense qu'on devrait avoir ce... Et je pense que notre vrai dilemme comme société actuellement, à travers le monde, c'est de, on veut trop revenir comme on était auparavant. Et malheureusement, Luc, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui a changé. On ne voyagera plus jamais de la même manière. Puis je vais, moi, j'avais fait une série qui s'appelait « Après, ailleurs », et je me posais des questions, puis je me, est encore pertinente parce que je me disais, peut-être qu'il nous fallait deux phases de pandémie pour être capable de constater que les choses ne seront plus jamais pareilles. Tu sais, au début, on se dit, oh, ça va finir, puis on va recommencer notre vie, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait tout l'été. Mais dans la vraie vie, là, c'est plus pareil.
C'est les mêmes étapes que le deuil, carrément. Ah, c'est le déni, la colère, c'est les mêmes étapes.
Une détresse, il y a une grande détresse, il y a une espèce de désolation aussi, et à la résolution. Puis je pense que c'est le vaccin qui va nous amener ça. Et parce que regarde les cas encore aujourd'hui, on est à 1200 aujourd'hui, le nombre de morts augmente sans cesse. Mais il y a des espoirs qui nous permettent de croire que ce qu'ils ont fait hier comme mesure là, avec Noël, en nous disant 4 jours de temps, vous pourrez peut-être célébrer. Je ne suis pas sûr que les gens vont célébrer tant que ça, moi. On va avoir peur. Les personnes âgées ont peur actuellement.
C'est sûr.
Avec raison.
Est-ce que ça t'a fait du bien de prendre du temps avec toi-même? Parce que ça a été ça, l'écriture de ce livre-là. C'est un peu avec toi, c'est une partie de ta vie, donc il y a ce bout-là.
Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait du bien aussi. Parce que, tu sais, ce métier-là, c'est un métier... Quand on est connu, là, je vais dire ça comme ça, puis je suis pas en train de me plaindre d'être connu, mais quand on est connu, on est sollicité beaucoup. Ouais. Donc, il y a plein de meetings qu'on a, il y a plein d'urgences qu'on ajoute à l'agenda, il y a plein de soupers qu'on a, il y a plein de dîners qu'on a. Puis des fois, on le fait parce qu'il faut le faire, puis à un moment donné, ça marche plus. Moi, mon agenda était rempli du matin jusqu'au soir. Puis il y a quelque chose que je n'arrêtais pas de dire à Véronique, même le 9 mars, alors qu'on se doutait pas que ça allait fermer, tout allait fermer. Je dis à Véronique, il faut que je revoie ma vie parce qu'il y a un moment donné, c'est trop d'urgence. Tout à l'heure, en venant ici, j'avais des meetings au téléphone, puis ça me rappelait avant la pandémie. Puis j'ai dit à Véronique, j'en ferai plus de meetings par téléphone. Quand je vais aller à quelque part, là, je vais me prendre la route, je vais la regarder, puis je vais être heureux de regarder la route, puis on fera des meetings plus tard. Donc, je pense que c'est ça. Ça m'a permis de comprendre qu'on ne peut pas vivre constamment en urgence. Il faut revoir nos priorités. Puis là, je suis rendu que je marche. Je faisais jamais ça, marcher autant. Allez, je vais au parc du Mont-Saint-Bruno. Là. Je fais ça 4 fois par semaine, puis je fais 10, 12, 13, 15 kilomètres par semaine. Et je suis heureux comme jamais de marcher dans le bois seul. Je me fais arrêter, là.
Mais... Oui, j'imagine.
Je me fais arrêter. Des fois, je me mets dessus, mais les gens me reconnaissent pareil comme aujourd'hui. Mais ils respectent ça, puis je marche. Puis ils me disent, oh, merci pour l'émission. Puis là, mais je marche, puis je fais ce que j'ai à faire. Puis ça me fait beaucoup de bien d'aller respirer l'air pur.
Tu parles de tomber dans tes anciens patterns, donc,
bien sûr.
De remplir cet horaire-là et bien de tout prendre et de dire oui à tout.
Bien sûr. Moi, je ne pas parce que j'ai une insécurité. C'est pas parce que je suis insécure. C'est parce que j'ai peur. C'est ça, la nuance. J'ai peur de manquer un rendez-vous.
OK.
C'est ça, ma grande crainte. C'est pas dire, mon Dieu, ça n'arrivait plus. Non, non, non. C'est pas la crainte de... C'est vraiment une crainte de, je peux pas manquer ce rendez-vous-là. Mais là, j'ai décidé tantôt, j'ai pris cette résolution-là depuis quelques semaines, puis je l'applique. Je vais faire 3 affaires par année, pas 12 puis 15. Hey, moi, là, une année, là, j'en avais 17 devant moi. J'ai encore ça. Là. Puis il y en a 8 en développement, puis 15, 7 qui sont en train de faire, puis l'autre qui s'en vient. Je ne peux plus faire ça. Ça, c'est impossible de ma nature maintenant. C'est impossible.
Mais en même temps, la télé, ça fait ça aussi, parce que quand c'est en développement, on ne sait jamais quand est-ce que ça va partir, le projet. Ça va dépendre de l'argent, ça va dépendre de la grille horaire, ça dépend de plein d'affaires.
Ça dépend de quoi le plus? D'une espèce de timing.
Ouais.
C'est fou, hein?
Ouais.
Bien plus que tout le reste. Des fois, là, t'arrives, marche pas là. Et t'arrives avec une autre idée, en 5 minutes, ils la prennent. Je veux dire, toi, au cœur du monde, ça s'est fait en 5 minutes. 5 minutes. Je veux dire, il y a d'autres projets qui sont pris 2 ans et demi. Mais on ne sait jamais ce qui se passe. Ils voulaient que je revienne. Radio-Canada avait envie que je revienne, moi aussi. Puis il fallait trouver le bon projet. Puis je suis arrivé en disant, hey, j'aimerais ça faire revenir dans le documentaire. Puis en fait, parfait, le tuin. Oui, on y va. Ça a été fait en 5 minutes.
Wow.
Mais je te dis, ça arrive 2 fois dans ma vie. Ouais. J'étais arrivé dans le train. Le train, ça s'est fait 5 minutes, le train. Même chose que ça. Dominique Chaloux a un pif terrible. Elle dit, le patron de Radio-Canada à l'époque du variété, a dit, trouve-toi un show dans une entrevue. Je vois ça dans un train. Puis c'était 5 minutes après, c'était réglé.
Et tu t'en fais parler encore.
Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais là, José Tô, au cœur du monde, à Radio-Canada, a peut-être dépassé ça. C'est étrange, parce que j'avais l'impression que chaque affaire que je faisais me ramenait au train. Puis je dis pas ça de mauvaise façon, au contraire. Mais j'ai fait quand même Madame Marois, j'ai fait Céline, j'ai fait série American Dream, j'ai fait d'autres affaires. On me parlait toujours du train, puis c'était correct. Là, José Tô, au cœur du monde, j'ai l'impression que ça a battu le train. Et que je me suis fait parler de cette série-là. Et que je m'en fais parler. C'était incroyable. Incroyable.
Je veux qu'on parle d'Au cœur du monde, qu'on a vu il n'y a pas tellement longtemps, où tu as fait des rencontres, c'était selon des thématiques, en fait.
Oui.
tu as rencontré des gens avec des parcours pas toujours évidents, entre autres des gens qui ont fait de la prison pour meurtre. C'était comment ces rencontres humaines-là pour toi?
Moi, là, je pense que ce que j'aime beaucoup dans la vie... Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews avec des vedettes, naturellement des vedettes, et je le dis pas péjorativement, mais des gens connus. Puis, à un moment donné, j'ai besoin aussi d'avoir du monde qui ne le sont pas. Parce que pour moi, c'est l'histoire qui prime. Toujours, toujours l'histoire. C'est le fun quand dans ton carnet d'adresse, tu as eu les plus grandes stars du Québec. Mais oui, bien sûr, c'est intéressant parce qu'il y a souvent des parcours exceptionnels. Mais il y a dans les inconnus d'exception, moi je les appelle comme ça, je les appelle pas les gens ordinaires, j'appelle les inconnus d'exception, il y a quelque chose de beau parce que d'abord, il y a aussi beaucoup de courage que ça leur demande de s'exprimer sur quelque chose de difficile. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc, quand Radio-Canada me dit « t'as le goût de revenir, on aimerait ça que tu reviennes, moi aussi j'aimerais ça revenir », bien, ce projet-là m'intéressait énormément parce que ça me permettait de donner la parole à des gens dans des sujets extrêmement difficiles. Des parents d'enfants qui ont commis l'irréparable, des gens qui ont survécu à un attentat, des gens qui décident de changer de vie, des gens qui ont changé de sexe aussi. J'ai eu des gens qui ont été accusés injustement. J'avais besoin d'aller toucher ces sujets-là parce que c'est des sujets qu'on ne touche pas habituellement. Donc ça, c'était bien important pour moi. Et je suis sorti de là très, très grandi. J'aime beaucoup faire ça, profondément.
Je me souviens d'une question dans la première émission où tu as demandé est-ce que la deuxième balle est différente de la première? C'est sorti tout seul, ça,
j'imagine? Bien sûr, écoute. Moi, quand je travaille une entrevue, d'abord, première des choses, je ne sais pas si ça va t'étonner, mais... Moi, je travaille jamais. Je prépare pas une entrevue. Je prépare pas ça. Je prépare pas de questions à l'avance, jamais.
Non, moi non plus.
Jamais. Bon. Mais je lis beaucoup. Ouais, j'ai toute l'information dans ma tête. Moi, j'ai appris à faire ce métier-là avec un gars qui s'appelle Gérard-Marie Boivin pour les plus vieux. On s'en souvient. C'est un immense intervieweur. Puis il me disait toujours toutes les questions sont dans les réponses des invités. Mais s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question dans les réponses, là, il faut que tes connaissances, tes aptitudes, ton talent, tes connaissances, bref, ton savoir, va t'aider à poser la question qui n'est pas dans les réponses. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. Donc, quand je vais faire une entrevue, je suis là, suspendu aux lèvres. C'est l'endroit où je suis le plus présent dans ma vie, c'est quand je fais une entrevue. Je suis tellement là que j'oublie tout ce qu'il y a autour. Et moi, la question qui me vient quand le gars est en avant de moi, c'est de dire, ça fait quoi la deuxième balle? Puis la première, c'est quoi? Mais quand je la pose, Luc, là, je me dis, oh là, j'allé trop loin. Il est trop tard, c'est sorti. Je suis même étonné qu'elle soit sortie. Mais quand je vois que la réponse est d'une franchise absolue de Daniel Benson, je me dis, j'ai bien fait de la poser.
Et au pire, il n'aurait juste pas répondu, puis ça n'aurait pas été dans le montage.
Ça aurait été tout. Mais en même temps, il faut faire attention des formats. Il y a une chanson magnifique de Daniel Bélanger qui s'appelle « Tu peux partir ». Et là-dedans, il dit les paroles suivantes, « Tout est dans la manière ». Moi, je pense qu'on peut faire des entrevues, poser des questions. Et Oscar Wilde disait, c'est pas les questions qui sont indiscrètes, mais les réponses. C'est à lui, aux personnes, de répondre ou de ne pas répondre. Parce que le pouvoir est toujours dans la bouche de l'interviewé et non de l'intervieweur. Tu vas avoir un intervieweur qui bombarde. Moi, les gens me parlent parce que je pense qu'ils sentent. Ça, c'est toujours la question qui me revient. Pourquoi ils se confient autant à toi? Parce qu'ils sentent que je veux comprendre, même si c'est des questions parfois difficiles à poser.
Dans cette série-là, il y avait aussi les mères porteuses.
Ah oui, ça, c'est vrai, j'ai oublié ça. Sujet très dur, ça.
Où on apprenait qu'elles se font beaucoup pointer du doigt, jugées par la société. Es-tu fier de leur avoir donné la parole et de mettre la lumière sur ces gens-là et de montrer à quel point elles ne sont pas des criminels comme les gens le disent, en quelque part, ou les pointent du doigt?
Ben moi, c'était très important, effectivement, de prendre ce sujet-là. Je me souviens à délicatesse et comment je m'en faisais parler en disant « Tu vas parler des mères porteuses, ça n'a pas de bon sens ». Moi, je parle des sujets qui me conviennent et j'ai le goût de lever un peu le voile sur des sujets difficiles, parfois. Et puis, tu sais que cette série-là là, a marché énormément. On a fait du 20 parts de marché, puis du 24 parts de marché. Puis on a fait... C'est incroyable, là, quand même. C'était pour les gens qui nous écoutent, là, autour de 500 000 et plus, c'est énorme pour une série avec des inconnus et surtout une série avec des thèmes comme celui-là. Et on succédait à l'émission de la magnifique émission de France Baudouin, En direct de l'univers. Bon, on est très contents des résultats. Et ça a fait... Et le monde m'en parle, comme ça se peut pas, parce que, justement, on les entend pas, ces gens-là.
En direct de l'univers où Véronique a participé.
Oui.
Il n'y a pas longtemps.
Oui.
Tu as vécu ça comment, toi? De voir ta blonde sur scène après toutes ces années où elle n'en a pas fait puis où elle refusait d'en faire, d'ailleurs.
Elle refuse toujours. La dernière fois, c'était quand on a fait l'hommage à Radio-Québec pour les 50 ans dans le cadre des Gémeaux et l'Orchestre métropolitain avec la direction Éric Séguin. Je dirais qu'à chaque fois que je la vois, ça me rappelle pourquoi je l'aime tant. C'est-à-dire, quand j'étais tout petit, donc un écart de 10 ans, nous, alors, à 14 ans, elle avait 24, c'était mon idole d'enfance, d'adolescence. Donc, tu t'imagines deux secondes, à chaque fois que je leur vois là, ça me replonge en me disant, je suis quand même avec l'une des plus belles femmes du Québec et des plus talentueuses du Québec et des plus humaines du Québec. Ça me rappelle ça à chaque fois que je la vois. Et de voir la solidité qu'elle a, elle entre sur scène alors qu'elle y va pas jamais, ça ne l'intéresse plus, elle a le même aplomb qu'elle avait à l'époque. Ça, ça me fascine. Elle va avoir 66 ans, Véronique. Elle arrive là, elle est toute en beauté, et solide comme du rock, une voix. Elle chante jamais chez nous, là. Elle chante avec aplomb. Elle m'impressionne beaucoup.
Tu travailles présentement sur Le Chaos.
Oui.
Série pour le Club Illico. Oui. On sait déjà qu'il y a Simon Morin dans le projet. Ça part d'une explosion dans une salle. C'est ce qu'on sait de la série. Mais elle est née, cette série-là.
Elle est née du... Moi, j'avais une grande préoccupation sur le monde des ados, des jeunes adultes. Et je suis arrivé à TVA et j'ai présenté une série pour ados en documentaire. Et rapidement, la direction m'a dit, tu devrais faire une série avec ça, ça marcherait tellement bien. C'est tellement ça le thème, j'aime ça ce que tu es en train de faire là. Et je suis allé écrire dans la nuit un synopsis et puis je suis arrivé le lendemain, je dis voici la série. Et c'était ça. Je voulais, moi, parler de la perte de l'innocence qu'on a souvent. Tu sais, on est heureux aujourd'hui, puis on ne sait pas ce qui peut arriver à un événement là et comment on réagit face à l'événement. Donc, c'est 10 jeunes adultes, quand même, qui se retrouvent en plein cœur d'un spectacle. Qui s'appelle, c'est le chanteur Inveau, qui revient d'une grande tournée mondiale, un chanteur du Québec, il vient faire son dernier concert à l'Impérial de Montréal, campé par Simon Morin, et qu'on a connu dans la Voix Star Academy, et ce soir-là, au bout de la sixième ou septième chanson, il y a une explosion. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a posé tout ça, cette bombe-là, qui veut du mal à Inveau, qui veut du mal à ces gens-là, et on découvre qu'est-ce qui s'est passé, mais qui ils étaient avant, pendant et après le drame. Donc, oui, c'est comme ça. J'avais envie d'explorer les événements qui nous arrivent sans qu'on le sache.
Vous faites tout le casting? Est-ce que c'est terminé?
On est dedans actuellement. On a pas mal nos gens de trouver. On va annoncer ça quelque part en janvier, mais ça, c'est toujours à la discrétion et c'est la prérogative du Club Illico qui décide quand. Mais on est en train de faire ça. On est très avancé. On est dans la pleine écriture. On en a encore pour quelques mois d'écriture. C'est une série qui est complexe à écrire. C'est Geneviève Simard qui fait un travail remarquable. Gabriel Sabourin a collaboré beaucoup aussi. Pascal Renaud-Hébert. Il y a Sylvie Bouchard qui a conseillé à la scénarisation. André Dupuis qui est avec moi en coproduction et script éditeur. On travaille fort, fort, fort pour faire en sorte que tout soit crédible parce qu'il y a trois temporalités en même temps. Ouais. Avant, pendant et après. Mais on est content. Puis je pense que le public aussi est très content.
Ça passe vite.
Ça passe très vite. C'est fort agréable. Vraiment, merci. Sincèrement. J'aime pas la flagonnerie d'envie, donc je dis pas les choses que je pense pas.
C'est très gentil.
Ah non, mais à force de vieillir, j'ai bien dit à force de vieillir, parce que quand on avance en âge, à un moment donné, on peut plus être dedans. On peut plus être dans les mensonges, ça c'est clair.
Ben merci. C'est gentil, j'apprécie beaucoup.
Vraiment, je t'ai déjà dit aussi à l'eau vedette, pour ne pas le nommer, mais je me souviens des entrevues qu'on fait, c'est toujours, il y a une vraie recherche, pas de vérité avec du sensationnalisme, mais on sent une vraie entrevue, puis on sent une vraie volonté de comprendre, puis ça, c'est un talent d'envie, et donc c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Quand j'ai compris que c'était toi, je vais on y va tout de suite avec plaisir.
Oui, parce que tu n'étais pas sûr que c'était moi, au départ.
J'ai pas fait le lien. C'est après que j'ai fait le lien, mais en même temps, j'entendais cette voix-là, puis je me disais, ça ne peut pas faire autrement qu'être une voix de radio. Non, parce qu'il y a un ton à la radio. Il y a une voix, puis c'est ça, ça nous accompagne.
Il n'y a pas de Salon du livre cette année. C'est le moment où il y a la rencontre avec ce public-là, parce que le métier d'auteur, c'est beaucoup solitaire.
Bien sûr.
C'est le moment où on les voit, les gens qui ont acheté les livres. Est-ce que ça te manque?
Ben moi, ça a été extrêmement bizarre. Et on a fait un truc virtuel. Claudia Larochelle a fait une entrevue remarquable. Mais ça m'a attristé beaucoup. Ça m'attriste aussi pour les autres auteurs. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être connu, donc on m'arrête pour me parle. Puis on me donne des commentaires. Mais les gens, justement, tu parlais de la solitude d'écrire, ils passent un an, deux ans à écrire. C'est leur seule récompense, c'est de rencontrer leur public. Ils ne le rencontrent pas. Ça, c'est un grand drame. Et en France, il y a un grand drame aussi. En France, ils ont fermé les librairies, ils ont fermé le commerce des livres. Et je me dis que la lecture, il n'y a rien de plus beau pour s'y réfugier. Donc, autant dans les salons du livre, autant, puis dans ce que l'on vit actuellement, les gens pensent qu'ils ne se vendent pas de livres, ils se vendent du livre ici comme jamais. Là, hein?
Ouais.
Les gens ont besoin de s'évader, d'entrer dans un univers, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que la rencontre avec le public est très importante, et je pense à tous ces auteurs, beaucoup plus qu'à moi, parce que moi, je suis chanceux. Mais les autres, je pense à beaucoup d'auteurs pas connus, ou qui commencent à être connus, à émerger. Je trouve ça dommage pour eux. J'espère qu'on va pouvoir vite revenir à des salons du livre importants parce que c'est crucial dans la vie d'un auteur. C'est sa récompense.
La lecture, c'est consacrer du temps à l'œuvre de quelqu'un, à l'écriture de quelqu'un. Tu as fait de la télé, tu as fait de la radio. On peut faire ça de façon passive, écouter la télé, écouter la radio. La lecture, on peut pas.
Non.
On est obligé d'être...
C'est un engagement.
C'est un engagement. On lit ça et on a choisi d'abord ce livre-là
déjà
à travers tout ce qui existe en librairie ou en bibliothèque. Ce que c'est flatteur, c'est que les gens consacrent une partie du temps de leur vie à ce que tu as écrit.
Et surtout, c'est un rapport intime. Contrairement, mettons, à une série Netflix, une série TVO, peu importe où, on le regarde en groupe, on peut... Un livre, c'est un rapport d'une intime.
C'est un à un.
Oh. Un à un. Et ça, ça me touche. Ça, ça me touche. Moi, je regarde pas les ventes, puis comment ça va, puis tout ça. Je suis pas fou, je le sais que ça va.
Non.
Mais en même temps, je regarde... Moi, je dis toujours, chaque lecteur compte. Fait quand on m'écrit, on me dit, voici ce que je pense, puis voici ce que je vis à présentement. Moi, c'est un rapport tellement d'une grande intimité, et c'est un privilège d'être lu. Et ce qui est formidable, c'est quand j'y serai plus, il y aura encore ces livres-là. C'est ça. Tu sais, l'humain pense beaucoup à la pérennité, surtout les hommes, disait Jeanette Bertrand, et avec raison. Puis moi, la seule chose que je me dis, c'est que les livres resteront un jour. Les émissions de télévision, ça passe, puis on passe à autre chose, tu comprends? Quoique, il y a des émissions qui sont importantes, mais je dirais que les livres, c'est quelque chose de particulier. En tout cas, moi, j'ai un rapport extrêmement charnel avec les livres. Je suis pas le seul. Mon ami Kim Thuy est comme ça, bien d'autres mondes. On a besoin de toucher aux livres, mettre des post-it dedans, avoir un rapport d'une grande intimité. C'est un beau privilège, et c'est pour ça que les livres numériques ne se vendent pas autant que les livres papier. Hein? Il y a encore le papier fort pour
l'odeur du livre neuf.
Sur mon Facebook, d'ailleurs, on me voit quand je déballe cette boîte de livres-là, que je la reçois pour la première fois, dans 3 mois tout au plus. C'est un plaisir immense. Je pense que je fais ça pour ce 5 minutes de plaisir-là. Je te jure, quand je reçois mon livre, puis là, j'ouvre les volets, puis j'ouvre les rabats, puis ça, je ne peux pas savoir comment c'est délicieux. C'est un grand moment, vraiment.
Tu parles de pérennité, donc est-ce que tu penses à tes enfants quand tu écris, de dire « ça va rester à eux, il y aura toujours ça » de papa à travers les années?
Moi, je voudrais surtout qu'ils se souviennent que j'ai essayé de faire de mon mieux. Tu sais, moi, je crois beaucoup, ça va faire une belle conclusion, je pense mal ça, tu vas aimer ça, je pense, que je veux dire. Mais moi, je pense qu'avant de mourir, là, moi, je pense ça. Appelle-le Dieu comme tu voudras. On nous demande, et puis, qu'est-ce que tu as fait, Luc? Qu'est-ce que tu as fait, José Ito, avec ce que je t'ai prêté? J'aimerais ça répondre, j'ai fait de mon mieux. Et j'aimerais ça répondre ça aussi à mes enfants, j'ai fait de mon mieux. Avec mes lacunes, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mes blessures, avec tout, j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Et j'espère que vous aussi, malgré certaines erreurs, vous avez fait de votre mieux. C'est juste ce qu'on doit faire. Donc, après ça, tant mieux. Puis je veux qu'ils soient autonomes. L'affaire la plus importante qu'on veut, tes parents de 2 enfants, avec ta blonde, c'est important de voir un jour qu'est-ce qu'ils vont devenir. Je parle pas de devenir socialement avec tout. On n'a pas besoin des fois d'être dans la lumière pour être bon. On a juste besoin de faire quelque chose qu'on aime. Puis être en accord avec soi. C'est ça le plus grand défi. Donc, moi, je voudrais qu'on laisse ça à mes enfants. Donc, quand je partirai, dire « Mon père nous a dit d'être soi-même. C'est juste ça que je veux. » Puis il a fait de son mieux.
José Lito, j'ai invité les gens à se procurer 3 mois tout au plus, ton roman. Le chaos, ça sort quand?
C'est quelque part fin, je pense. Mais j'ai pas encore les dates officielles, mais c'était en 2021 sur le Club Illico. Et puis, peut-être qu'on va revenir avec José Lito au cœur du monde.
Moi, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y aura un deuxième volet? Je ne sais pas.
On t'en peut parler. On va voir. Mais moi, j'ai envie de le faire encore. C'est clair. Mais on va voir. On est en train de regarder les sujets et les affaires, oui.
Est-ce qu'il y aura un autre livre? Est-ce que tu penses à ça ou pas?
Je suis en écriture d'un cinquième qui va sortir en 2022. Déjà, je le sais parce qu'il faut signer des contrats des fois. On t'en peut parler. Fait que là, c'est ça. Oui, il va sortir un autre livre.
José Lito, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui.
Ah, c'est vraiment un bonheur. Tu fais ma journée, sincèrement. Puis c'est vraiment, là, vraiment, tu me fais du bien. Merci beaucoup.
Merci. Ça a été une super rencontre. Comme toujours, ça a toujours été un bonheur de te parler. Merci beaucoup.
Merci, réciproquement.